Ô saints et fidèles en Jésus-Christ, à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochable sous son regard dans l'amour. Amen. Je vous invite à chanter « Réjouissons-nous au Seigneur ».
Réjouissons-nous au Seigneur. Égayons-nous en son honneur, lui seul est notre délivrance. D'un même élan venons à lui, il sera toujours notre appui. Chantons notre reconnaissance.
Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez son salut de jour en jour. Annoncez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Donnez au Seigneur, famille des peuples, donnez au Seigneur gloire et force. Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande. Entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte et que gronde la mer et ses richesses. Que la campagne tout entière soit en fête. Que tous les arbres des forêts crient alors de joie devant le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre. Il gouvernera le monde avec justice et les peuples selon sa loyauté. Nous chantons avec le psaume 25, ses strophes 1, 3 et 4.
Monte, monte, ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais ne sera déçu qui te prend pour espérance. Mais que tout soit confondu, qui rompe ton alliance. Mon Dieu, dans ta grâce immense, qui dure éternellement, regardant ta bienveillance et pardonne à ton enfant. Mais loin de ton souvenir, les péchés de ma jeunesse, chaque jour vient m'affermir. Seigneur, selon ta promesse, Dieu d'amour, tu fais connaître aux plus humbles tes secrets, et pour lui tu es. Son appui
ses enfants comme lui. Frères et sœurs, il me revient, en tant que célébrant, de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir tous, particulièrement ceux d'entre nous qui sont ici pour la première fois, qui découvrent cette maison de prière. Et en même temps, c'est aussi moi l'invité. Je remercie votre communauté de l'oratoire, James et Marc, qui m'ont invité à partager avec vous ce dimanche. Écoutons ensemble la volonté de Dieu, telle qu'elle est rappelée à travers la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3. C'est Paul qui nous parle. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, comme un bon architecte, j'ai posé le fondement, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est en place, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. Que personne ne s'abuse. Si quelqu'un parmi vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou pour être sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Montre-moi, Seigneur, la route, guide-moi dans la clarté. Ouvre à celui qui t'écoute un chemin de vérité. Je regarde à ton amour, ô salut, qu'en toi j'espère. Je le verrai chaque jour, cette terre. Seigneur Jésus, par toi nous recevons cette bénédiction d'être appelés saints et de recevoir la justice du Père. Cette nouvelle est pour nous étonnante. Lorsque nous la mettons sans concession en face de nos situations de vie, tu veux que nous proclamions que tu es vivant en parole et en acte, et la peur de la mort est là. Tu veux que nous annoncions ta lumière. Nous sommes dans les obscurités. Tu nous demandes de parler avec autorité, avec clarté. Mais au milieu de la vie, nous ressentons à chaque pas notre ignorance devant tes mystères. Tu veux que nous affirmions ta miséricorde gratuite envers tous les hommes. Et nous restons si souvent dans nos peurs à propos de nous-mêmes et dans nos culpabilités. Tu veux faire de nous véritablement des saints, des collaborateurs de ta justice et de ton royaume, et nous sommes là avec le poids de nos fatigues. Apprends-nous, pour nous en délivrer, à nommer notre péché comme tu le fais toi-même, et sans attendre qu'en nous il y ait quelque chose qui te ressemble, de nous engager en acceptant d'être saints, en acceptant que nous sommes digne de toi. Amen. Rappelez-vous les promesses du Seigneur telles qu'elles apparaissent au livre de l'Exode, chapitre 6. J'ai entendu la plainte des fils d'Israël asservis par les Égyptiens. Je me suis souvenu de mon alliance. Je vous ferai sortir des corvées d'Égypte. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous ramènerai à moi avec puissance et autorité. Je vous prendrai comme mon peuple à moi, et pour vous, je serai Dieu. À travers ces paroles, j'annonce aujourd'hui à tous ceux qui engagent dans la foi un mouvement de repentance qu'en Christ, tous leurs péchés sont derrière eux, qu'ils sont remis, qu'ils sont absous. Chantons notre reconnaissance.
Du vieux tronc d'Isaïe, durant l'hiver prospère, un frère à moi jaillit, et sur le sol du ciel.
Je vous invite à partager le raisonnement de la foi chrétienne qui n'est pas particulièrement votre foi, qui n'est pas particulièrement ma foi, peu importe de qui elle est la foi du moment que nous l'entendons et qu'elle devient notre vie. Nous le faisons avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Sans apparence des pauvres Israélites, il connaît la souffrance, les périls, la mort n'a plus d'effroi, il me rend l'espérance en ce donne.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. Mes amis, notre célébration est déjà tout entière animée par les lectures bibliques. Mais en vue de la prédication, je veux particulièrement lire avec vous deux textes. Un premier du Lévitique, un second de l'Évangile de Matthieu. Nous lisons d'abord dans le Lévitique un extrait du chapitre 19. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Parle à toute la communauté des fils d'Israël. Tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur votre Dieu. N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas, ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi, le Seigneur. » Nous lisons ensuite un extrait de l'Évangile de Matthieu dans son chapitre 7. Et nous allons tout d'abord lire un seul verset, le verset 6, avant de placer ce verset dans son contexte plus large. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'en se retournant, ils ne vous déchirent. Plaçons maintenant ce verset dans son contexte. Ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera, et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère, « Attends que j'ôte la paille de ton œil. » Seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent, et que se retournant, il ne vous déchire. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Nous chantons dans notre recueil de cantiques le numéro 190, les strophes 1, 2 et 4.
Descendez jusqu'à toi.
Dieu notre Père, nous te louons pour la parole toujours nouvelle que tu nous adresses, pour ton Esprit Saint qui toujours veille auprès de nous. Notre prière en cet instant ne consiste pas à te demander, toi, d'être présent, mais à te demander plutôt que tu nous rendes présents. Que tu sois dans ce lieu, cela ne fait aucun doute, mais que nous-mêmes puissions être dans le lieu de ta présence, c'est ce que nous te demandons d'accomplir. Vous avez entendu, mes amis, que nous avons partagé, que ce soit à travers l'Ancien Testament ou à travers le Nouveau Testament, des versets qui nous présentent la sainteté et qui sont en même temps plutôt des versets de séparation. Vous avez entendu l'appel de Dieu : Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Mais aussitôt après, il y a la question de la réprimande, donc le fait que cet appel à la sainteté va avec une prise de distance par rapport aux erreurs. De la même manière, dans le Nouveau Testament, nous avons pu entendre ce verset « Le temple de Dieu est saint et ce temple c'est vous », mais avec une prise de distance aussitôt après par rapport à la folie. Enfin, nous avons parcouru ce verset de l'évangile de Matthieu et particulièrement, je m'appuierai sur celui-là, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux porcs. » Quelle compréhension de la sainteté et du sacré, même s'il y a aussi un léger décalage entre ces deux termes, mais cela ne nous concernera pas aujourd'hui, quelle conception de la sainteté est proposé ici. Cela renvoie à l'étymologie qu'il y a dans chacun de ces mots, dans la Bible, aussi bien que plus largement en dehors du texte biblique. Les mots de kadosh en hébreu, hagios en grec, sanctus en latin, et dans toutes les variantes possibles, tous ces mots qui traduisent une sainteté sont toujours conçus comme une prise de distance, comme l'établissement d'une différence, d'un écart entre la justice de Dieu et ce monde. Oui, le monde où nous vivons, le monde dont nous faisons partie auquel nous appartenons, ce monde n'est pas le royaume de Dieu et il est bien loin de sa justice, de sa paix. Il faut mettre à distance la sainteté de Dieu pour porter un regard juste sur ce monde. Une fois cela dit, cependant, nous pourrions avoir une tentation immédiate. Ce serait celle de considérer que l'appel à la sainteté qui nous est adressé signifie pour nous de nous placer du côté de Dieu en prenant nous-mêmes distance d'avec le monde. L'appel à la sainteté ne signifie-t-il pas de ne pas nous mélanger avec ses porcs, de ne surtout pas partager avec eux les biens et la sainteté que nous tiendrions de Dieu, nous qui serions, selon les paroles de Paul, le temple de Dieu, le temple saint de Dieu? Alors ne faudrait-il pas que nous soyons attentifs sur cette ligne de démarcation entre nous et ce monde mauvais? Il y a de cela dans le Lévitique, dans le Deutéronome, mais aussi à certains passages du Nouveau Testament. Cette tentation n'est jamais très loin dans le texte biblique. Regardez par exemple ce verset de Deutéronome chapitre 22, verset 9, qui indique que lorsqu'on plante une vigne, il faut bien faire attention à ne pas mélanger la vigne avec d'autres plantations. « Tu ne sèmeras pas dans ta vigne une deuxième sorte de plante, est-il écrit, sinon tout deviendrait sacré, dans le sens tout deviendrait interdit. On ne pourrait plus consommer ni la vigne, ni les autres plantes. À la fois ce que tu aurais semé et le produit de la vigne deviendrait interdit. » Et le mot qui signifie l'interdit est ici le mot de sacré. Oui, la question du sacré dans le texte biblique est souvent très proche de l'idée d'introduire des démarcations. Et dans la symbolique de l'Église, ne pourrait-on pas aussitôt dire qu'il ne faut pas planter la vigne de l'Église ensemble avec ces autres plantes ou mauvaises herbes qui prolifèrent ailleurs? La tendance est forte. Or, il se trouve qu'il n'y a pas que cela dans la Bible. Et surtout, il n'y a essentiellement pas cela. Dans la Bible, on trouve essentiellement l'image d'une sainteté de Dieu que Dieu, lui, choisit de partager. Si donc Dieu affirme sa sainteté dans la différence du monde, ce n'est pas pour prendre ses distances avec le monde, mais c'est au contraire pour pouvoir d'autant plus offrir sa sainteté au monde. Ainsi est-il particulier et remarquable que ce verset de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 6, qui nous dit de ne pas donner nos perles aux porcs, de ne pas livrer ce qui est sacré aux chiens, contre toute attente, ce verset est encadré par, d'une part, l'indication que nous n'avons pas à juger les erreurs de nos frères, l'idée de la paille et de la poutre, et d'autre part, par l'indication qu'il faut donner de bonnes choses aux autres, comme un père donne de bonnes choses à ses enfants. La parole qui nous indique qu'il ne faut pas jeter nos perles sacrées aux porcs ou aux chiens prend donc nécessairement un sens tout autre. Comment associer les deux? Comment associer le fait que Dieu nous donne une sainteté qui, comme telle, est à distance du monde, et le fait que Dieu nous invite à son exemple, à tout offrir au monde? Il y a ici une distinction à faire entre la sainteté et la sagesse, pour avancer d'un cran dans notre réflexion. C'est ce qui est proposé dans l'Épître aux Corinthiens. Aussitôt que Paul vient d'annoncer aux Corinthiens « Le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous », aussitôt il les met en garde sur le fait que cette sainteté ne ressemble pas à la sagesse des hommes. En quoi est-ce que cela nous apporte quelque chose sur la sainteté? Dans ce monde, il y a des sages et il y a des fous. On pourrait parler longuement là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en simplifiant un peu, on pourrait dire que le sage est habituellement, aux yeux du monde, celui qui est mesuré, pondéré, équilibré, tandis que le fou est celui qui a quelque chose de dissonant, d'excentrique, quelqu'un qui vit avec des repères différents. L'image, par exemple, mais c'est loin d'être le seul fou possible, l'image du dictateur fou que nous avons tous, seul contre les autres, Idi Amin Dada, Muammar Kadhafi et autres. Le saint est-il plus proche du sage, de celui qui équilibre les choses, ou est-il plus proche du fou? Il se trouve que dans l'Épître aux Corinthiens, Paul ne nous dit pas que le saint est proche du sage. Il nous dit que le saint est proche du fou. Le saint est celui, selon Paul, qui fait ces changements de conception qui l'emmènent à totalement dissonner des conceptions raisonnables du monde. La sainteté est un chemin de folie qui nous fait tout à coup parcourir des voies nouvelles et étranges que le monde ne reconnaît pas. Mais il y a ici une distinction supplémentaire à faire, toujours en suivant l'enseignement de Paul. Paul distingue à ce point-là la folie du monde, la folie humaine et la folie de Dieu. Je dirais que la folie humaine ne consiste qu'à être humain de manière plus radicale encore. Les humains ont tendance à être indifférents les uns aux autres. Le sage essaye de contrebalancer cette indifférence. Le fou, lui, est indifférent à l'extrême. L'humain a tendance à être agressif. Le sage essaye de tempérer cette agressivité. Le fou, lui, est agressif, sans retenue. Les hommes ont tendance à penser qu'ils ont raison contre les autres. Le sage, lui, essaye d'écouter la part de vérité qu'il y a chez les autres. Le fou, lui, est absolument certain qu'il faut imposer sa certitude et sa raison aux autres. Autrement dit, les fous aux yeux du monde ont certes quelque chose qui ressemble beaucoup à la sainteté de Dieu, à savoir qu'ils se séparent du monde, mais ils se séparent du monde en étant encore plus humains, encore plus mondains. Vous avez dans le monde de ces fous du monde, qui d'ailleurs souvent se proclament saints. Je veux parler de ces fanatiques religieux, même si le fanatisme n'est évidemment pas le seul apanage de la religion. Mais parlons en ce qui nous concerne de ces fanatiques religieux qui évidemment se revendiquent saints dans leur folie, mais dont la folie me paraît très humaine. Leur manière d'être fou consiste à être indifférent aux souffrances des autres, à libérer leur pulsion d'agressivité sans contrebalancement, à être certain que leur voie est la bonne et que celle des autres devrait être corrigée. Oui, ils ont beau s'appeler saints, leur folie est véritablement toute humaine. La folie de Dieu est différente. La différence de Dieu dans sa folie à lui, la différence de Dieu, c'est que contrairement aux hommes, il ne fait pas de différence. La différence de Dieu, c'est qu'il distingue sans diviser, là où nous séparons toujours. Ce que Dieu a d'unique, c'est qu'il ne s'isole pas. Ce que Dieu a d'extraordinaire par rapport aux hommes, c'est qu'il s'intéresse à nous, à notre normalité, à notre banalité, à notre ordinaire, comme dit un ami. Ce que Dieu a de supérieur par rapport aux autres, c'est qu'il sait être petit, c'est qu'il sait être vulgaire. Ce que Dieu a de raisonnable, c'est qu'il ne mesure pas son amour et donc qu'il sait les limites de la raison. Oui, la folie de Dieu n'est pas une folie qui intensifie les tendances des hommes, mais au contraire une folie qui les contrebalance. C'est tout autre chose d'être un fou humain qui n'est finalement qu'un humain portant au paroxysme le péché, ou au contraire d'être, selon la folie de Dieu, quelqu'un qui est humain autrement, qui est humain avec amour. C'est là que la question de la sainteté devient toute différence. Lorsque Dieu nous dit « Ne jetez pas vos perles aux cochons, ne jetez pas vos perles aux porcs », c'est tout près de la parole de Jésus sur le sel. Ne perdez pas votre sel, vous en avez besoin pour le donner, pour l'offrir équitablement, comme un père donne des bonnes choses à ses enfants. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, que ce ne soit pas dilapidé, mais partagez-le. Partagez-le pour ceux qui en ont besoin. C'est là que le mot de communion des saints prend tout son sens. Oui, contrairement à ce que l'on pourrait attendre dans un premier temps, et même si la sainteté de Dieu se distingue du monde. La sainteté de Dieu se distingue du monde parce qu'elle vient vers le monde avec quelque chose de nouveau. La sainteté de Dieu se distingue du monde parce qu'elle connaît la communion des saints, qu'elle connaît la communion dans l'amour. Alors soyons vigilants, nous aussi. Choisissons bien notre folie. Choisissons bien notre sainteté. Non pas la pseudo-sainteté, celle des fanatiques de toutes les religions qui croient que la bonne folie consiste à s'opposer aux autres. Ces fanatiques de toutes les religions que je voudrais bien appeler les détestants. Ne devenons pas des détestants, ceux qui cherchent leur voie de justice en expliquant que l'autre a tort, ceux qui cherchent leur voie de sainteté en prenant leur distance avec toutes ces choses affreuses qui se pratiquent dans le monde. Et cela, cette voie de la détestation, cette voie des détestants, elle existe partout. Elle est très humaine, elle n'est pas spécifiquement chrétienne. Vous avez ces détestants de l'islamisme, vous avez actuellement en Inde ces détestants de l'hindouisme qui sont contre une rencontre avec les autres religions, pervertissant ainsi le vrai bien de leur tradition hindouiste. Vous avez aussi ces détestants dans le judaïsme, et oui, aussi chez nous, il y a des mouvements détestants. Ne revendiquons pas cette forme-là de sainteté. Ce que la Bible nous fait découvrir, c'est que la sainteté ne consiste pas à prendre distance des autres, mais que la sainteté consiste à aller vers les autres. Revendiquons cette folie divine de ne pas exclure, cette folie divine de ne pas rejeter. Désirons la rencontre de Dieu chez le plus petit d'entre mes frères. Amen. C'est le cantique 308 qui nous mène à chanter aux strophes 1, 3e et 5e.
Merci, vous pouvez prendre place pour un temps d'annonce. D'abord, un grand merci à Frédéric Chavel, donc, qui est professeur de dogmatique à la faculté de théologie protestante. Alors, c'est vrai que depuis longtemps déjà, notre faculté est luthéro-réformée, c'est-à-dire lie l'Église luthérienne et l'Église réformée, même avant l'Église protestante unie. Et puis, d'habitude, c'est le professeur de dogmatique qui est effectivement de sensibilité luthérienne. Donc, c'est Frédéric Chavel qui est depuis cette année professeur donc, à la chaire de dogmatique à la faculté de théologie. Et donc, grand merci pour cette prédication si inspirante, si fine. Moi, ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup, Frédéric. Merci aussi à Jean-Dominique Pasquet qui a dû réagir. Alors, c'est vrai que l'orgue... Il y a plein de petites pièces partout, il y a dû y avoir un petit bidule qui s'est coincé quelque part, donc merci d'être descendu pour nous accompagner pour la suite donc, de ce culte. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'apprécier donc, personnellement la sonorité de ce petit orgue, pas mal du tout je trouve. Pierre Lostria nous proposera pour les heures musicales vendredi prochain de 12h30 à 13h30 ici même, donc un récital sur ce petit orgue, avec des psaumes de la Réforme et puis des lectures donc de psaumes de Clément Marot et de Théodore de Bèze. Ça, c'est vendredi, donc à 12h30, ici même, pour les heures musicales, donc ce récital d'orgue mensuel que nos organistes nous préparent. Alors sinon, à la sortie de ce culte, il y a une vente de gâteaux par les éclaireurs, donc c'est les patrouilles des léopards et des chamois qui nous proposent des gâteaux. C'est pour nous réjouir, mais c'est aussi pour assurer le financement de l'équipement donc, de leur patrouille. Et puis à la sortie de ce culte, en face, aux 4 rues de l'Oratoire, nous avons un repas de paroisse. Même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez venir quand même manger. Aujourd'hui, c'est une équipe donc de passionnés par les légumes bio et puis les poulets bio aussi, je crois, qui ont préparé un repas. Donc, vous pouvez partager ce moment avec nous en face aussi. Demain, à midi, il y a donc le groupe protestant des artistes qui se réunit avec une conférence de Patrice Rollin sur l'atelier protestant. Alors, comme je vais un peu vite pour les annonces, vous avez sur les affiches qui sont à la sortie, vous trouverez, ou sur le site internet, normalement, vous trouverez voilà, les annonces. Mardi après-midi, à 2h30, il y a l'étude biblique avec James Woody sur les psaumes. Donc, c'est en face, aux 4 rues de l'Oratoire, de 2h30 à 4h. Alors, mardi, c'est sur le psaume 51, les psaumes des Camisards. Donc, voilà, c'est une bonne occasion de, je dirais aussi, perfectionner notre propre lecture de la Bible. Jeudi soir, nous avons le chœur qui a sa répétition, samedi aussi, mais en particulier jeudi. Et ça peut être l'occasion pour vous, eh bien, de, peut-être de vous inscrire pour chanter dans le chœur de l'oratoire. Et puis à 19h30, il y a donc les étudiants qui se réunissent, donc c'est au rez-de-chaussée avec Marjolaine, que j'ai cru apercevoir quelque part. Donc vous pouvez, si vous êtes étudiants ou un peu plus, donc jeunes actifs, rejoindre ce groupe de discussion théologique, biblique, réflexion, avec de débats entre étudiants et jeunes, et puis de partager donc un repas ensemble. Alors vendredi, les heures musicales, j'en ai déjà parlé. Samedi, donc on peut rejoindre le chœur, non pas pour devenir choriste, ce qui demande quand même une qualité musicale un peu élevée, mais simplement pour apprendre à chanter nos cantiques, participer avec le chœur à l'animation du culte de dimanche prochain. Donc ça, c'est samedi à 16h, le chœur élargi, venez chanter avec le chœur. Dimanche prochain, il y aura donc le chœur qui va chanter. En plus, il y aura un chœur donc, d'enfants qui vient d'Angleterre, qui participera. Donc le chœur sera, à mon avis, quand même pas mal rempli de choristes. Ça sera un culte voilà, particulièrement joyeux avec cette musique, avec les enfants aussi des catéchismes. Donc ça risque d'être un culte assez joyeux. Alors quand même, il y a aussi autre chose, c'est samedi à 18h, ici même, dans le centre de l'oratoire, nous avons un petit cercle qui se réunit pour des lectures, un peu de chant et puis des temps de prière silencieuse pour se perfectionner dans la prière et s'appuyer les uns sur les autres. Donc c'est la cinquième rencontre donc, de ce nouveau groupe de prière auquel vous pouvez bien sûr participer une fois ou régulièrement comme vous le voulez. Donc maintenant c'est le moment de l'offrande, nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu et l'offrande est un geste de consécration et de louange à Dieu en plus de soutenir le témoignage de l'Église de l'Oratoire dans le monde.
Mes amis, avant de vous appeler à la prière d'intercession, permettez-moi de répondre et de faire un peu de publicité pour ma faculté, puis c'est de bonne guerre sans doute, en répondant à la salutation de Marc. Marc, je vous rappelle, vous qui habitez à Paris, que vous avez la chance d'être dans cette ville où il y a une faculté de théologie qui vous appelle à tous vous former, à être tous avec un certain niveau d'exigence de culture théologique. Alors, vous n'allez pas tous entamer un cursus comme étudiant ordinaire, peut-être que certains d'entre vous, oui. Il y a aussi des cours publics et il y a beaucoup de manières à s'associer à ce que vous apporte cette faculté, qui n'est d'ailleurs pas sans connexion avec l'animation théologique que vous proposent vos pasteurs. Juste un détail, Marc m'a rappelé qu'en tant que dogmaticien dans cette faculté luthérienne et réformée, j'étais plutôt d'inspiration luthérienne. Vous savez que pendant plus de 100 ans, car notre faculté a à peu près 140 ans, pendant plus de 100 ans, il y avait d'une part un dogmaticien réformé et d'autre part un dogmaticien luthérien. Et puis, au bout d'un certain temps, il n'y a plus qu'un dogmaticien luthérien. Alors, vous avez deux manières de comprendre ce phénomène. Soit, finalement, on s'est aperçu que quand il y a un dogmaticien luthérien qui parle, c'est plus vraiment la peine d'avoir un dogmaticien réformé à côté. Il y a sans doute quelque chose de vrai là-dedans, mais je l'interprète un peu autrement tout de même. C'est plutôt que lorsque l'on est en train d'enseigner, on ne peut pas faire une séparation binaire entre une doctrine réformée et une doctrine luthérienne. Et alors même si j'entre volontiers dans cette idée de me déclarer luthérien, notre enseignement commun luthérien et réformé dans cette faculté ne croit pas au cloisonnement confessionnel de manière rigide. J'espère que cela vous donnera envie de venir un tout petit peu. Prions ensemble. Seigneur, nous te prions dans un esprit écuménique, dans un esprit d'amour de ta maison, dans toute son étendue, dans toute sa richesse. Pour toutes les églises répandues dans l'univers. Que les églises ne se croient pas ta maison sans considérer d'abord que c'est la terre qui est ta maison. Nous te prions pour la diversité des églises chrétiennes et la diversité des mouvements, des inspirations religieuses et spirituelles. Particulièrement, nous te prions pour ceux qui sont actuellement chrétiens persécutés pas tellement pour leur foi à proprement parler, mais plutôt pour leur identité religieuse. Nous te prions pour que les églises ne tombent pas en réponse dans le piège de l'identitaire, qu'elles n'essayent pas de démarquer ce qui est pur et impur, en s'assimilant eux-mêmes au pur et les autres à l'impur. Nous te prions, Seigneur, pour les puissants de ce monde. Tout d'abord, les sociétés multinationales qui échappent de bien des manières aux lois organisées et démocratiques. Et s'ils sont de fait, si elles sont ces sociétés au-dessus de nos lois, qu'ils ne soient pas sans loi, qu'il ne soit pas au-dessus de ta loi. Nous te prions pour les hommes politiques, pour qu'ils échappent à la tentation de la vanité et qu'ils donnent envie aux électeurs de voter. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont les habitants du monde, pour ceux qui sont le vrai enjeu de la vie de l'Église, le vrai enjeu des jeux de puissance et de politique, pour ceux qui sont petits et fragiles, pour ceux qui ont mal, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont en train de mourir, pour ceux qui sont en train de casser quelque chose dans leur vie ou de subir une cassure. Indirectement, à travers ces prières, nous te prions aussi pour nous-mêmes, et nous nous confions à toi dans une communauté fraternelle. Lorsque nous te prions pour l'Église, C'est pour nous aussi que nous te prions, qui sommes l'Église. Lorsque nous te prions pour les puissants, c'est pour nous aussi que nous te prions, à qui tu as confié tant de choses. Lorsque nous te confions pour les petits, pour les faibles, c'est pour nous aussi que nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis par Dieu. La paix de Dieu dépasse toute compréhension, toute intelligence humaine. Et pourtant, c'est maintenant cette paix qui garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.